Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Immo et sur Territoria. On est ravis d'être avec vous. Il est 15h13 exactement. On est ravis de partager ce moment avec vous pour ce congrès ici à Montpellier. Je rappelle que c'est un congrès itinérant. Nous sommes à Montpellier cette année au congrès de l'Union sociale pour l'habitat, qu'on appelle plus couramment H-Expo. Bon, tous les bâtiments ont été privatisés. Il y a des centaines d'exposants. On parle bien évidemment de la ville, de la construction et de la fabrique de la ville dans un seul et unique but, faire en sorte que les Français puissent être logés correctement, décemment et dignement. Je vous le dis, les amis, c'est pas le cas. Donc, effectivement, on va attendre du gouvernement que, dans la politique menée par notre nouvelle ministre, Valérie Létard, qui, je le rappelle, avait conduit le projet de la loi ZAN, notamment, elle avait piloté l'application de la loi ZAN, une députée affûtée, une parlementaire qui a été à la fois sénatrice, députée du Nord, on va espérer qu'elle nous apporte de vraies réponses. En tout cas, elle viendra peut-être sur le plateau, on va espérer, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, on va parler justement de... des nouveaux modes constructifs, et j'aimerais qu'on dédie ce passage, cette émission, on est ensemble pour une petite trentaine de minutes, sur la construction, l'innovation, voire même la déconstruction, on en parle beaucoup en ce moment, et on s'était dit qu'on va réunir les meilleurs experts du secteur autour, pourquoi pas, on ne va pas bouder notre plaisir, donc je suis ravi d'accueillir Fabien Schiffolo qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes récemment nommé directeur développement et construction auprès du CISN, merci d'être avec nous. Un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau pour parler justement des problématiques de construction. Merci Olivier Budin d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Hypelec. Vous êtes un équipementier pour la construction. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Vous allez présenter notre entreprise. Et enfin, on a un grand expert qui est avec nous sur le plateau. C'est Christophe Roy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de construction pour le groupe Polylogie, notamment Logirep.
Exactement.
Merci d'être avec nous. Voilà, on est parti dans une petite trentaine de minutes. Je vais commencer par vous, Olivier. D'abord, on va présenter Hypelec. Rappeler un peu voilà, quel est le contexte. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes implanté?
Alors, bonjour, le groupe Hypelec, c'est une vision au départ de son fondateur, Jean-Louis Robert. Michel Français, ils étaient deux, ils sont là. Et c'est l'idée qu'on peut simplifier les chantiers.
Donc leur site existe. On a l'impression aujourd'hui qu'on le redécouvre.
C'est vrai. Hein.
Mais,
on parle que de ça en ce moment.
On parle que de ça, mais le problème, c'est le constat qui nous amène à faire du hors-site. Hein. C'est tout ce qui est décarbonation, qui fait que si aujourd'hui on continue à construire comme on construit actuellement, en 2030, on ne saura pas passer les caps des seuils de la RE 2020 parce qu'on ne saura pas faire, on ne sera pas adapté.
Très juste.
Donc
très juste.
Il faut aujourd'hui avancer sur cette façon de faire, et cette façon de faire remet en cause toute notre façon de réfléchir et de voir un projet.
Et c'est la martingale ou pas?
Non.
Est-ce que la construction hors site, Christophe, en plus vous avez la double casquette puisque vous êtes à la fois l'expert mais aussi architecte de formation, va s'imposer comme le mode constructif? Ou est-ce que c'est un mode constructif alternatif?
Alors, ce n'est pas un mode constructif alternatif et ça ne va pas s'imposer. C'est un moyen d'arriver à construire différemment et à respecter le millefeuille réglementaire qu'on parlait tout à l'heure. Voilà comment je vois les choses. Il y a d'autres exemples, il y a d'autres façons de faire. Le réemploi, on parlait de la déconstruction tout à l'heure. Mais il faut qu'on puisse utiliser le hors-site aussi.
Voilà. Olivier, une remarque?
Effectivement, c'est pas une baguette magique. Ma définition personnelle du hors-site, c'est que c'est une démarche. C'est une démarche collaborative. C'est l'idée que quand on travaille ensemble, en amont d'un projet, on est plus efficient que quand on travaille les uns après les autres et en s'adaptant sans cesse et en improvisant sans cesse.
Mais vous décrivez du BIM, là?
Là, je décris un BIM humain. C'est déjà de s'asseoir autour de la table. Hein. Même s'il n'y avait pas l'Internet, s'il y avait une panne d'Internet, on pourrait faire du hors-site parce qu'on se mettrait ensemble, on se parlerait. Comme un peu, on est dans un très beau salon ici. Ben, les gens qui ont monté ce salon, c'est, je peux vous dire, ils l'ont monté dans un temps record, ils vont le démonter encore plus vite. Et ben, c'est des corps de métier, apparemment différents les uns des autres, mais ils travaillent ensemble. Ils ont appris à travailler ensemble, ils ont appris à préparer leur chantier en amont. Donc, c'est ça pour moi le hors-site, c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est essentiel que les dirigeants, les entreprises qui veulent que ça change, qui veulent regagner en productivité sur leur chantier, en qualité, en délai, eh bien, ils doivent en être convaincus et ensuite embarquer leurs équipes et leur écosystème d'artisans, installateurs, etc.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup votre façon de voir les choses, Olivier. Beaucoup. Et vous êtes le premier à me dire, c'est un BIM humain. J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Parce que c'est une vision, finalement, compagnonique. Je m'explique. Moi, qui suis un ancien compagnon de voir, je vois tout à fait la portée de ce que vous dites. Et donc, la technologie, finalement, Olivier, ne vient que rajouter ce qui préexiste déjà. Et d'ailleurs, Christophe nous l'a déjà dit. Finalement, on fait réémerger une technologie ou un mode de réflexion constructive nouveau, et en réalité, on le faisait déjà. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'innovation, c'est que la voie du bon sens, par les professionnels, ramène toujours à des choses qui sont efficaces et productives. Merci pour cette réflexion. Justement, à la lumière de ce que vient de nous dire Christophe et Olivier, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Fabien ?
La construction en site, vous voulez dire ?
Oui, construction en site, mais surtout l'idée, mais vous l'avez lu comme tout le monde, voilà, la construction en site, c'est génial, vous avez un groupe puissant qui est aujourd'hui le premier fournisseur, qui est le groupe Nexity, qui a créé iWood, vous savez, la filière, avec sa filière bois, qui a fait un partenariat avec Top Hat, vous savez, en Angleterre, qui permet de faire de l'assemblage. Il y a eu déjà des projets très concrets, extrêmement bien réussis, il faut le dire, avec trois logiques. Et vous, je voudrais vous positionner finalement en tant que promoteur dans cette réflexion. La première logique, c'est je fournis du logement plus abordable, parce que mon objectif, c'est de massifier la construction en site. Donc forcément, on industrialise, hein, en quelque sorte. C'est un peu l'enjeu que Véronique Bédal a fixé dans la conduite du projet Next City. La deuxième, c'est la logistique. La logistique est ultra maîtrisée, parce que, Christophe, vous êtes d'accord, on a un public qui aujourd'hui accepte de moins en moins les nuisances. Et c'est un vrai sujet, notamment parce que les élus locaux, du coup, qui ont envie d'être réélus, bah, ils ne veulent plus voir autant de grues dans leur quartier. Et puis le troisième prix, c'est le prix.
J'allais y venir.
Le prix ? Bah, oui. Justement, voilà. Est-ce que je me trompe quand je résume ça ?
Bah, je sais pas, il faudra que tout le monde donne son avis, mais nous, on a une modeste expérience sur une opération qu'on a réalisée, qui a été mise en service l'année dernière. Il a fallu faire un choix, c'était un choix de la maîtrise d'ouvrage sur est-ce qu'on va en hors-site ou pas. Il a fallu peser tout le pour et le contre. Tous les avantages donc, que vous avez évoqués, le délai, évidemment, très important. Le fait des nuisances du voisinage, très important. Mais après, est-ce qu'on est capable de payer cette construction ? Nous à l'époque, c'était il y a 3 ans quand on a fait les estimations, la maîtrise d'œuvre nous avait annoncé un écart entre une construction hors site et une construction classique de l'ordre de 30%. Je ne sais pas si ce que vous avez comme estimation. On a pu le faire, on devait le faire parce qu'il y avait un caractère d'urgence, c'était la construction d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui était délocalisé, donc il a fallu le reconstruire à Saint-Brévin. On a fait ce choix. Mais il y a eu tous ces avantages en parallèle, mais il y a toujours un peu le revers de la médaille. Et tant qu'on n'aura pas atteint un volume suffisant, on n'arrivera pas à faire baisser ce coût. Alors je vois que tout le monde va peut-être réagir sur les prix que j'ai annoncés. J'espère qu'ils sont dans tendance à la baisse, mais c'est important, quoi.
Justement, alors réaction ?
La réaction, elle est assez simple. Si on parle en prix de revient de l'opération, oui, on est plus cher en hors-site. Mais en fait, il faut raisonner en prix global. Parce que c'est sur le long terme qu'on arrive à avoir des prix moins chers, puisqu'on livre plus vite, on a une maintenance plus facile. Généralement, ce sont des pièces qui sont pré-établies, donc on sait les changer, on sait les défaire si nécessaire. Donc c'est le prix global qu'il faut voir avec la vie du projet et tout ce qui est entretien à long terme de l'opération. Par contre, sur le prix immédiat, on est entre 6 et 14% effectivement en plus-value, ça on le sait. Hein.
C'est pas autant que ce que j'ai annoncé en fait.
Voilà. Mais par contre, ce qu'on gagne, c'est aussi la qualité à l'intérieur des logements. Tout ce qui est fait en industriel aujourd'hui, en site couvert, les ouvriers sont mieux lotis pour travailler. On n'est pas avec les intempéries et on livre plus vite.
Et ça n'affecte pas la qualité de l'immeuble.
Je dirais qu'au contraire, ça améliore la qualité de l'immeuble. Aujourd'hui, sur les chantiers, le constat est assez simple. Enfin, je pense que vous le partagez. On se retrouve avec des ouvriers de moins en moins qualifiés. Et on se retrouve avec des défauts de plus en plus importants à l'intérieur des opérations. Vous livrez une opération, vous avez beaucoup de réserves. Le hors-site, Si on est par exemple sur du 3D, oui, le module il arrive, il est fini, on n'en parle plus quoi.
Mais oui,
voilà.
Tout leur temps, et ça, Christophe, ça a de la valeur. Non mais
c'est de la valeur qu'on gagne en gestion de patrimoine après.
Ça s'apprécie voilà. En fait. Si on devait actualiser la valeur, effectivement, à l'instant T, ça coûte plus cher de fabriquer, de faire du hors-site. Oui. Mais si on approche globalement, si je vous écoute bien, à court, moyen et long terme dans la vie de l'immeuble, dans l'actualisation, j'allais dire financière, si jamais je rends l'appartement, enfin je rends l'immeuble fongible, donc financiarisé, effectivement on a une valeur qui est nettement...
Et il y a une deuxième chose aussi...
Sur du long terme, ça tient. Hein.
Oui, en fait, nous on construit en tant que bailleur sur 50, 60, 80 ans. Quoi.
Oui, ça tient.
Donc les opérations de remise en état dans quelques années, on saura les faire puisque tout est programmé à la construction pour défaire et refaire avec le hors-site. Et pour pouvoir y arriver, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on massifie les commandes. Tant qu'on n'aura pas massifié les commandes, on n'arrivera pas à avoir des prix qui, en prix de revient construction, soient moins chers que le traditionnel. Mais il faut pas s'arrêter sur ça, il faut regarder plus loin.
Olivier Budin.
Les promoteurs que je rencontre m'expliquent qu'ils ont effectivement surfé pendant des décennies sur une main-d'œuvre de chantier nombreuse.
C'est vrai. Hein.
Nombreuse. Et bon marché, si je peux me permettre. Aujourd'hui, elle est moins nombreuse, elle est moins qualifiée, les prix augmentent, et surtout la complexité des constructions augmente, parce que plus de normes, plus de techno, etc.
Donc, et la qualité donc
bah, avec une qualité qui est moins au rendez-vous, donc des délais supplémentaires, donc des coûts supplémentaires, donc de la sinistralité, etc. Donc en fait, c'est devenu insupportable, et tout ça est confirmé par une étude qui est sortie il y a quelques mois d'Ernst & Young, qui a fait pas mal de bruit, qui explique que notre filière de la construction est la seule activité économique en France, seule, qui depuis 20 ans perd de la productivité. C'est-à-dire qu'il y a moins 1%, ça a été mesuré par des spécialistes, moins 1% de productivité par an, alors que le reste de l'économie française, tout secteur confondu, a généré entre 1 et 1,8% de productivité par an. Donc ça, c'est juste devenu aujourd'hui insupportable. Ça veut aussi dire que si on n'avait pas eu cette perte de productivité, bah, on aurait pu amortir les effets de l'inflation des coûts il y a 3 ans.
Très juste.
Donc c'est un sujet, je trouve, dont on ne parle pas assez. On ne met pas assez la productivité au cœur de la crise comme une des causes de la crise qu'on traverse aujourd'hui. Et il y a effectivement des façons, indépendantes de la politique du gouvernement, de régler cette problématique-là, c'est de mieux travailler ensemble, d'être davantage en amont. On revient à cette idée de la préfabrication et de la philosophie hors-site. Parce que là, on va réussir à faire de la qualité, à réduire des délais. Et réduire des délais, c'est réduire les coûts de portage d'une opération. Et effectivement, plus on aura de la standardisation de certains éléments, qu'on arrivera donc à industrialiser avec du quantitatif, plus on fera en plus baisser les coûts. C'est-à-dire qu'à terme, le hors-site, c'est une promesse de baisse des coûts de construction. Les coûts d'exploitation, ils seront plus bas, mais la construction, ça baissera. Donc, il faut continuer, il faut surmonter les obstacles, il faut surmonter la force de l'habitude qui freine beaucoup d'organisations, et il faut y aller ensemble. Je pense que ça passe par une volonté des dirigeants et ensuite, la capacité d'embarquer leurs équipes et leur écosystème.
Je suis d'accord, pleinement.
Commentaire ?
Non, je peux que abonder dans son sens. C'est le volume qui fera la différence. Et je veux juste insister sur le fait aussi que la qualité, elle est vraiment supérieure. Enfin, on l'a vraiment constaté avec un nombre de réserves vraiment minime et donc une qualité client vraiment optimisée en fait.
Mais Christophe, dans ce que vous dites, moi je partage complètement votre point de vue. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement de se dire il faudrait modéliser un modèle économique pour valoriser finalement l'action hors-site. Parce qu'aujourd'hui, on valorise le hors-site en fonction de critères dépassés finalement, si je reprends ce que vous dites. Parce qu'on se dit, ouais, ça va coûter plus cher ou ça coûte plus cher. En réalité, il faut l'actualiser de façon différente. Autrement dit, qu'est-ce qui fera que un primo-accédant, quelqu'un, une classe moyenne peut avoir accès à des constructions hors-site? Ou est-ce qu'encore une fois, on se retrouve dans un schéma constructif dans lequel, finalement, on va réserver ces types de modes de construction à ceux qui auront les moyens de se les payer? Non, mais je caricature un peu, mais ça peut être une question...
Je dirais qu'on aura déjà un changement de mentalité à faire opérer pour qu'un primo-accédant accepte de rentrer dans une opération hors-site. Il faut changer le modèle économique et la façon de voir les choses chez nous en France. Hein. Ça, c'est le premier point.
C'est-à-dire ?
Bah,
je comprends.
Le module 3D bois, par exemple,
ouais.
Pour certaines personnes, c'est pas quelque chose durable dans le temps. Alors que, en gros, la construction bois, on en a fait pendant des siècles, et c'est resté debout encore à ce jour. On a des maisons avec des colombages en bois qui résistent au temps.
Bien sûr.
Mais la mentalité d'être propriétaire, c'est d'avoir du dur. J'en reviens à la pierre. Donc on est sur un schéma de pierre. Donc ça, c'est des mentalités qu'il faudra faire changer.
Mais là, on est dans la culture. Là.
On est dans un problème de culture.
On est dans une anthropologie qui dit que... mais je peux dire la même chose pour le feu, par exemple.
C'est la maison des trois petits cochons, tout simplement.
Voilà, je construis en bois, ma maison brûle, et si je le fais en béton, je serai protégé. Alors qu'en réalité, le béton est conducteur du feu, et le bois consomme est beaucoup plus protecteur. C'est marrant, ce sont des préjugés ancrés, mais on fait comment pour sortir de là ?
Il faut continuer, insister, construire.
Il faut travailler le narratif, en fait.
Faire des expériences, communiquer et dialoguer avec les gens pour leur faire comprendre que ça fonctionne, simplement.
Ou alors faire un stage en Norvège ou en Gaspésie.
On parlait tout à l'heure des modèles économiques. Dans certains pays, la Hollande ou Londres ou autres, il y a déjà des constructions qui sont comme ça depuis des années, mais qui sont aussi comme ça parce que l'État a décidé d'imposer des choses à un moment donné qui fait que c'est rentré dans la culture et dans la façon de faire. Donc je pense que aujourd'hui, on a un millefeuille réglementaire avec des obligations réglementaires RSE, taxonomie verte. On a beaucoup de choses qui se mettent en place en France qui vont nous y conduire petit par petit. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on s'y mette. Sinon, on aura loupé le créneau, quoi.
Olivier,
tout simplement.
Olivier, vous êtes aux premières loges, hein, pour le coup. Vous accompagnez les promoteurs un peu partout. Comment vous les accompagnez ? Je veux dire, en dehors du fait que vous prestez, que vous avez des prestations techniques qui sont de qualité, c'est pas discutable, mais comment vous arrivez à faire en sorte que vos clients évoluent mentalement, justement ? Parce qu'en réalité, on voit bien que c'est dans le mental que ça doit changer, et la formation d'ailleurs. Je crois que les ingénieurs comme les architectes aujourd'hui ont vu évoluer les cursus de formation pour les amener à réfléchir. Il y a aussi une nouvelle génération qui arrive aux affaires.
C'est vrai. Moi, je constate qu'il y a une ouverture, il y a de la curiosité, et il y a surtout la nécessité de faire évoluer des choses.
Et dans le business, vous sentez qu'il y a une évolution ? Qu'on s'approche de quelque chose qui...
Moi, je sens qu'il y a une écoute, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à la croisée des chemins. Hein. C'est quoi l'avenir ? Moi, je pense que ça repartira, bien sûr, parce qu'il y a de tels besoins de logements. Ça va repartir, mais ce qu'il faut, c'est que ça reparte sur des bases plus, plus hors site. Allons-y, c'est le thème de la journée. Plus hors site qu'avant. Il ne faut pas revenir en arrière. Et comment ça se passe ? Quand on rencontre un promoteur, le premier sujet, c'est on l'interroge sur les cailloux qu'il a dans sa chaussure. Qu'est-ce que sur les dernières opérations, où sont ses frustrations ? Où est-ce que ça s'est mal passé ? Est-ce qu'il a tenu ses délais ? Est-ce qu'il est content de la qualité qu'il y avait à la réception ? Et en l'écoutant, on s'aperçoit qu'on a des solutions. Il y a des standards qui sont déjà préfabriqués, qui vont pouvoir intégrer son cahier des charges, rentrer dans ses bases de données. On va pouvoir mettre en place des accords cadres en identifiant certains éléments préfabriqués qui vont tout naturellement intégrer les futures constructions. Donc en fait, c'est assez naturel, c'est pas une révolution. Il s'agit juste d'avoir le bon dialogue, le bon niveau de dialogue. On est dans le concret, on n'est pas des rêveurs, comme vous disiez au début. Hein. On est vraiment dans le monde des faiseurs et on apporte des solutions. Et il ne faut pas viser trop vite parce qu'on risque de se décourager, de décourager les équipes. Il faut vraiment y aller pas à pas. Le hors-site, c'est une démarche. Ce n'est pas que des modules 3D, c'est aussi des éléments 1D, hein, des éléments structurels, des poteaux-poutres. Ça commence là. Ensuite, il y a des panneaux 2D qu'on peut utiliser aussi en rénovation. Et puis là, l'offre, elle se développe en ce moment avec des panneaux de plus en plus sophistiqués qui intègrent les menuiseries, les réseaux techniques, etc. On peut avoir ensuite donc le module 3D, le fameux Lego, hein, qui est le stade ultime. Alors le Lego, il va marcher bien à partir du moment où il y a une récurrence.
C'est quelle matière ?
Oh, ça peut être du bois, ça peut être hybride, ça peut être bois, béton, acier.
C'est du béton.
Ça peut être beaucoup de choses, mais ça va marcher d'autant le module que on est sur des, par exemple, sur de la résidence gérée. avec des chambres d'étudiants, des chambres d'hôtels, du logement pour personnes, pour seniors.
Donc je peux travailler aussi la modularité.
Alors là, on arrive effectivement sur du module 3D, c'est-à-dire qu'il arrive sur le chantier, il est fini. Tout est dedans. Il y a la salle de bain, il y a la kitchenette, il y a les alimentations, il y a les menuiseries. L'architecte, il n'a plus à s'occuper de cette brique. C'est une nouvelle brique. Et ça, d'ailleurs, on en présentera une bientôt à Batimat, dans le consortium dont on fait partie, Zen Modular.
Eh ben, c'est nous qui faisons tous les contenus du Batimat, avec toutes nos équipes.
Eh ben, on va parler de la G-Room.
Ah oui, mais
puisqu'on va la présenter en avant-première à Batimat dans le village Orsite.
G-Room
pour Junior.
Ouais, c'est génial. Mais quand je vous écoute, je me dis, encore une fois, je vais jouer les néophytes. Hein. Pourquoi on n'est pas plus avancé que ça en volume? J'ai regardé le nombre de chantiers. Enfin, en ce moment, les chantiers... on ne peut pas dire qu'on voit des chantiers partout, mais en vitesse de croisière, on voyait qu'il n'y avait pas... C'est quoi le frein? C'est les promoteurs eux-mêmes?
Non.
C'est les usagers? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Ou est-ce qu'on est aux prémices d'une industrie qui est en train de se transformer? Ou peut-être qu'on est un peu à la traîne de l'Europe, mais...
Je pense qu'on est dans une industrie qui est en train de se reconnaître et de se reformer. Et que y a des majors en construction béton qui jusqu'à présent n'avaient aucun problème pour dire c'est comme ça qu'il faut construire, c'est du traditionnel.
Ça c'est vrai.
Hein, c'est la problématique du changement en fait, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, on le redisait tout à l'heure, on a un coup de pied qui est phénoménal, c'est la RE 2020 avec les différents seuils qui font que on n'y arrivera pas si on ne revoit pas notre façon de voir et de penser. Tout à l'heure, on parlait de la massification, on parlait des modules. Effectivement, hein, il y a plusieurs types, hein, de hors-site. Et nous, on fait du logement spécifique. Donc, logement étudiant, personnes âgées, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit que les architectes, quand vous prenez un projet, vous n'avez pas une salle de bain identique. Vous avez des fois 3 cm de différence. Mais ça veut dire que le gars sur le chantier, il est obligé à chaque fois de redessiner, de retrouver l'endroit où il va faire. Alors que une chambre étudiante, c'est 18 mètres carrés, c'est toujours la même chose. Il y a une salle de bain, il y a un coin cuisine, il y a un rangement, il y a un lit. Donc la massification, elle va démarrer là-dessus. Nous, on est en train travailler pour mettre en place un accord cadre là-dessus.
C'est ça. En fait, sur ce qui est faisable, reproductible, modélisable ou standardisable, il y a une réponse.
On va aller plus loin, on parle des logements spécifiques, mais je pense que l'architecture hors-site, là c'est l'architecte qui parle, c'est plus Logirep. On sait faire de la belle architecture, même avec de la 3D, même avec de la 2D. En fait, il faudra aussi convaincre les élus d'accepter aussi des matériaux différents en façade. Voilà.
Donc par exemple, donnez-moi un exemple.
Par exemple, vous allez tomber sur un maire bâtisseur qui va vous dire « moi je veux de la pierre autoportée ». Ben, en fait, pierre autoportée avec du hors-site, ça devient un peu compliqué parce qu'on essaye d'alléger tout le poids et on se retrouve à remettre une façade qui va être porteuse très lourde. On perd le gain de ce qu'on aurait pu mettre en place. Donc il faut aussi accepter du bois, il faut accepter du parement.
Je suis d'accord avec vous, c'est parce que le maire pense, ou l'élu local,
que c'est plus durable.
Et beau.
Voilà.
Et qu'il y a une osmose. Non mais, soyons honnêtes, on a une ville qui s'est construite là-dessus. Et on sort tous les deux, c'est ce qu'on va boire. Voilà. Donc je peux comprendre le maire qui dit, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais là, je pourrais pas démantibler finalement mon secteur. Mais encore une fois, ça demande
de l'éducation.
De l'éducation,
tout simplement.
Et d'accepter d'avoir une façade bois. Je peux vous dire que c'est pas évident. Hein.
Alors, ça sera pas évident. Pour la mairie, parce que le bois, il change.
Et tout n'est pas égal, parce que je peux vous dire que je suis passé devant une façade bois pas plus tard qu'hier soir, et j'ai cru que c'était un chantier en déshérence de l'extérieur, tellement que c'était gris dans l'approche. En fin de journée, vous imaginez, je vois un truc gris, etc., et là, je vois tout de suite que en fait, c'est du bois, et que c'est une promotion récente, qui avait l'air d'être un chantier abandonné. Tout n'est pas non plus égal.
On est bien d'accord.
Il faut qu'on garde aussi cet esprit critique dans le mode constructif, bien évidemment, parce que vous avez dit, ça va changer. La façade, elle va changer.
Mais je suis d'accord, mais en même temps, on ose mettre du bois dans la conception, mais on n'ose pas dire qu'il va vieillir, qu'il va devenir gris. Il faut aussi l'accepter.
Mais c'est pas évident qu'il devienne gris.
si on commence à vouloir le traiter pour qu'il reste de la même couleur, on va être obligé d'intervenir régulièrement. Donc on aura perdu le bénéfice.
Christophe, à l'heure où à Bordeaux, on a ravalé toutes les façades.
Ah bah oui.
Rappelez, c'est noir. Rappelez cette truc.
Oui, oui, complètement.
À l'heure où on ravale toutes les façades, où on l'a plus blanc que blanc, avoir du gris, je peux comprendre que ça soit pas drôle.
Mais
une réflexion peut-être, Olivier, sur le sujet.
Non, je me dis que ça fait partie des choses qui sont amenées l'esthétique forcément à évoluer. Le regard, l'esthétique est importante, mais ça évolue. Les toits plats, c'est rentré dans le quotidien de toutes les régions, alors que c'était inenvisageable il y a quelques années.
Ah, je suis d'accord, mais enfin, avoir une ville grise.
Il y a d'autres matériaux, il n'y a pas que le bois.
Il n'y a pas que le bois, c'est ce que j'allais dire.
C'est clair. Oui, le promoteur.
Le promoteur. Il y a des remises en cause pour beaucoup de monde, en fait. On parle des clients finaux sur le fait d'accepter justement d'être dans une construction modulaire, si on parle de 3D, pour être allé dedans. C'est vrai qu'il y a un ressenti assez particulier de souplesse, de bruit qui est un peu qui est pas du béton, quoi. Et clairement, ça fait un peu bizarre.
Donc
ça,
oui, c'est sûr.
Ça, faut l'accepter. Enfin, faut le voir. Donc il y a cette remise en cause là, il y a aussi les collectivités, les mairies et autres, d'accepter, parce que quand on dit modulaire, certains sont prêts, d'autres pas du tout, et ça c'est plutôt la majorité, je pense. Et pourtant, je suis persuadé que si on montre des constructions modulaires à pas mal de personnes, ils seraient incapables de le voir. Avec des habillages bois, mais il y a tout, on peut mettre tout bardage.
On peut mettre tout bardage.
Enfin, les usagers réagissent comment? Les clients finaux, comment ils le vivent, ça?
Je pense d'abord qu'ils savent même pas. J'ai séjourné dans un voyage d'études aux Pays-Bas dans un hôtel qui est sans doute un des plus beaux d'Amsterdam, qui s'appelle le Jakarta, en hommage à leur voyage, à leur commerce avec l'Indonésie. Il est tout bois. Et sur les 150 chambres, il a la forme d'un bateau, donc on se dirait c'est vraiment un truc unique, un délire d'architecte. En fait, sur les 150 chambres, il y en a 120 qui sont strictement les mêmes. Ouais. Strictement les mêmes, qui sont venus par grue, posé.
On a posé la chambre.
Et quand vous êtes dedans, d'abord, je vous assure que vous ne pensez pas du tout à la façon dont il a été construit. Nous, on a un regard de professionnel, et on le sait. Mais le résident de l'hôtel, il va juste profiter d'un endroit extraordinaire, dont une partie a été fabriquée avec des modules 3D, fabriqués dans des usines à 50 km autour d'Amsterdam. Ce sera démontable, si un jour ça doit être démontable. Voilà, donc je pense que c'est pas le sujet, en fait. D'ailleurs, quand on est dans une maison, on sait pas si ça avait été fait avec de la prédalle, de la dalle pleine, etc. Ouais, etc. On sait pas.
Mais c'est de l'impression 3D?
Non, pas du tout. C'était parce que j'ai séjourné au même hôtel. En fait, c'est ouais, simplement.
On va s'échanger les bonnes adresses.
Ouais, hein. C'est un bâtiment avec. Les modules 3D sont faits avec une dalle béton, et ensuite, c'est une structure bois. Et l'hôtel en question, c'est 200 chambres et ça a été monté en 3 mois. Ah, tout simplement. Et quand vous êtes dans le logement, comme vous êtes dans la chambre, mais on serait dans un
200 chambres.
Ouais.
Ça pourrait être un immeuble où il y a 40 appartements. Quoi.
Ah, exactement. Et en fait, à l'intérieur.
3 mois, c'est livré.
3 mois, c'est livré, c'est monté. Hein, en 3 mois. Après, il y a des finitions extérieures. Mais en 3 mois, les 150 ou 130 modules ont été montés. Et en fait, c'est impressionnant, quoi.
Faut ajouter le temps de construction
usine. Le temps de construction usine, en fait, c'est là tout l'intérêt du hors-site. Et c'est là tout l'intérêt de travailler tous ensemble dès le début. En fait, vous lancez un projet, dès le démarrage, vous choisissez le partenaire industriel, l'architecte, le bureau de contrôle, vous travaillez tous ensemble. Pendant la réalisation du béton, des fondations ou du dallage, puisqu'il y en aura forcément, quoique maintenant, on a des pieux vissés qui peuvent être aussi à enlever pour de l'habitat d'urgence. Pendant ce temps-là, vous faites le témoin numéro 1, qui est le module numéro 1, qui va servir à la pré-série. Vous le validez. Et en fait, quand le gros œuvre est fini, on pose. Donc, c'est là où on gagne. En fait, il y a un effort qui, aujourd'hui, dans la conception traditionnelle, c'est tout se fait sur le chantier. On lance un OS, 2 mois de préparation de chantier. Mais avant, il y a eu 1 an de conception architecturale, permis de construire et tout ça. On relance et les études d'exécution se font pendant le chantier. On le sait. On a le gros œuvre, les corps d'État sont désignés petit par petit. Dans une conception hors site, c'est dès le démarrage, l'effort, il est recentré en conception. Et donc, l'idée, c'est à la fin du gros œuvre, on pose le hors site. Et là, on gagne. Et là, on a tout compris. Mais pour cela, il faut travailler en méthode intégrée, en projet intégré. Et surtout, il faut, comme le disait Olivier, faut discuter ensemble, travailler ensemble, Et c'est là où on a un petit peu de soucis, c'est avec le code des marchés publics qui aujourd'hui, il laisse pas beaucoup de possibilités pour travailler tous ensemble au début.
Il n'est pas clairement adapté ou pas ?
Il va falloir qu'il bouge.
Je nous observais tous les trois, vous savez qu'on buvait littéralement vos paroles. Il y a beaucoup de bon sens dans tout ça, bien évidemment. On peut, Olivier, livrer un bâtiment en 6 mois, 9 mois.
On va dire
finition comprise.
On peut diviser par deux le temps de la construction d'une résidence gérée.
Ouais, vous rendez compte, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Voilà, on vient de me dire que justement, il fallait que je puisse conclure. On a un autre invité qui est déjà arrivé. Je serais bien resté avec vous une heure ou deux de plus. Voilà. On se fait la promesse de se revoir justement pour parler de tout ça. Je vous organise un sujet à Paris. Je pense que c'est un sujet qui trouvera jamais de réponse, en fait. Il y aura toujours, vous êtes d'accord, de la réflexion sur quelque chose. Parce que ça va bien plus loin qu'une simple révolution, hein, tout ça.
Ouais, en fait, je pense qu'on va avancer pas à pas sur la logique du hors-site, mais il va falloir continuellement augmenter nos compétences. En fait, c'est pas parce qu'on est... Moi, je suis certifié hors-site, c'est pas parce qu'on est certifié hors-site que c'est fini. En fait, chaque projet... Il y a un retour d'expérience. Il faut aussi partager nos expériences. Il ne faut pas garder dans notre coin ce que tu vas faire toi d'un côté, ce que tu vas faire toi. Il faut qu'on mette en commun tout ça. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça aussi, c'est la massification, ce qui permettra de gagner en prix de revient d'opération, prix de construction. C'est notre mise en commun de notre savoir-faire.
Voilà. Merci beaucoup, Christophe Roy. Je rappelle... Que vous êtes. Ah oui, là, si on avait les applaudissements, on pourrait le faire. Hein. Voilà. Directeur des activités. Alors, je vais essayer de le retrouver. Directeur adjoint des activités pour Logireb. Merci beaucoup. Je vais vous demander un mot, un seul mot, un adjectif pour qualifier nos échanges spontanément. Quel mot vous viendra à l'esprit ?
Échanger.
Échanger. Voilà. Merci Christophe. Merci Olivier Budin, je rappelle que vous êtes le directeur général d'IPELEC. Pareil, un mot, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit ?
Ensemble.
Ensemble.
Alors, il faut savoir que le jury...
Fabien Chipolo, voilà, directeur développement et construction pour le CISN. Qu'est-ce que vous diriez comme mot pour conclure ?
Ouverture.
Voilà.
Le tout public.
Pour échanger ensemble, il faut faire preuve d'ouverture.
Complètement. Mais c'est le premier mot qui me venait.
C'est pas mal, hein ? Merci, vous avez bien facilité la tâche. Comme quoi, le hors-site, c'est aussi valable à la radio. Merci en tout cas à tous les trois. On se retrouve bien sûr très rapidement sur ce sujet. Il est 15h50. On enchaîne avec la suite de nos programmes.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.